C'est bon, Judith.
L'émission d'info locale.
Brest.
Bonjour tout le monde, installez-vous confortablement, vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne d'info locale du lundi au jeudi de 18h à 19h. Aujourd'hui, ce sera une quotidienne un peu plus courte parce qu'on n'a qu'une seule interview, mais ce sera tout aussi intense. On est en compagnie d'Amadeus, qui est président de l'Asso Futur, une asso qui veut offrir un lieu de sécurité pour les animaux de ferme, accompagner les familles qui souhaitent adopter leur nouvel animal de compagnie et sensibiliser les gens aux besoins des cochons. Bonjour Amadeus.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va et vous?
Oui, très bien, merci.
Alors, super.
Amadeus, du coup, tu es le président de l'asso Futur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment est né cet asso?
Alors, l'association Futur, elle est née il y a à peine 3 ans, mais on a derrière nous quand même 20 ans de collectif, de militantisme, d'associatif sur la cause animale et l'écologie. Et en fait, au fur et à mesure de ces années, on s'est dit qu'il fallait se structurer parce que c'était bien beau, c'était noble de faire des projets désintéressés, sans structure vraiment carrée, et que c'était que du bénévolat, mais que pour faire perdurer des projets, il fallait se structurer, se professionnaliser, et du coup salarier des gens.
Ok, du coup, c'est vraiment des passionnés qui sont derrière cette association, on imagine.
C'est ça.
Et vous y faites quoi concrètement ?
Alors, l'association, elle a plusieurs buts. Son but principal, c'est le changement culturel, changer les représentations de notre société sur les animaux et l'écologie. Donc, on a différents projets, notamment celui dont on va parler aujourd'hui, le sanctuaire du futur. Mais on en a d'autres. Par exemple, on a un sujet qui s'appelle l'affaire du steak. Donc, c'est pour ramener la question de l'élevage, de la végétalisation de notre alimentation au sein de notre écologie. Parce que c'est un petit peu un tabou au sein de l'écologie. On parle beaucoup de plastique, de pollution de l'air, de l'eau, mais pas souvent des repas parce que ça touche à notre assiette.
C'est ça. Je ne sais pas si c'est une info vraie, peut-être que tu pourras me dire, mais je crois qu'une personne qui ne consomme pas de viande, elle émet 2 fois moins de CO2 en termes de ce que ça va représenter dans son alimentation qu'une personne qui consomme de la viande, justement.
Ouf, même beaucoup plus que 2 fois moins. C'est-à-dire que souvent, quand on est écolo, tu vois, on se dit on va pas consommer de plastique, on va prendre du local, du zéro déchet, pas prendre l'avion. Et en fait, juste le fait de pas prendre de viande ni de poisson, c'est plus impactant que si tu cumules, si tu cumules le zéro déchet, le local et rouler à vélo. Si tu fais ces 3 gestes, t'es moins impactant que si juste tu manges pas de viande et de poisson.
Ok, c'est vraiment une info qu'on n'a pas, alors que avec la transition écologique et tout, on pourrait se dire que ce serait facile de nous la donner, mais c'est vrai que c'est bizarre.
Parce que ça amène à d'autres enjeux culturels, d'habitude, et puis aussi notre écologie, elle s'est construite avec les petits agriculteurs, avec les paysans, avec José Bové. Donc on a une proximité avec l'élevage qui fait que c'est un peu gênant. Et puis on veut aider aussi les petits producteurs. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de mal. Mais ce que je viens de te dire, c'est un rapport de Carbone 4. Donc c'est l'institut de Jean-Marc Jancovici. Donc c'est très sérieux. Et ça, c'est juste sur les gaz à effet de serre. Mais si tu prends sur la perte de biodiversité, l'élevage, c'est la première raison de perte de biodiversité, excuse-moi. Et c'est aussi la première raison de déforestation dans le monde.
En fait,
on déforeste les forêts pour planter du soja. Et ce soja, c'est pas pour nourrir des végétariens ou des véganes, mais pour nourrir les animaux d'élevage, en fait.
Oui, c'est ça, parce que moi, c'est une remarque que je me suis déjà prise en tant que végétarienne. C'est mais si tu manges du soja, ton soja, il pousse au Brésil, il a participé à la déforestation. C'est peut-être en partie vrai, mais sauf que la plus grande partie du soja, c'est pour...
C'est pas vrai, le soja des bobos écolos de France, c'est du soja français parce que le soja en Amérique latine est souvent OGM. Alors celui-ci est autorisé pour nourrir les animaux d'élevage, mais il n'est pas autorisé à la consommation des humains en France.
Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ok,
en
je
France,
saurais quoi répondre.
On fait pousser du soja, mais du soja pour l'alimentation des humains et des humaines.
Bah ça, c'est bon à savoir. Et du coup, on pourrait parler donc, du sanctuaire pour cochons que vous êtes en train de créer avec l'association. C'est quoi exactement ce sanctuaire ?
Alors, du coup, comme nous, on est sur le changement de mentalité, changement de représentation, une de nos campagnes, elle a pour but de changer notre représentation sur les animaux de ferme. Et donc, on s'est dit, ben, quand même, il y a eu une évolution de la représentation du chien et du chat sur les deux derniers siècles. On est quand même passé des chiens errants qui ont la rage, qui ont voulu jeter des cailloux, il fallait surtout pas qu'ils nous touchent, ensuite à l'utilité de ces chiens en gardien des maisons, tu sais, dans une niche avec un collier qui pourront jamais rentrer dans la baraque, à le chien maintenant meilleur ami de l'humanité, avec dans le canapé en train de à moitié dormir sur nos oreillers, quoi. Et en fait, au fur et à mesure de notre réflexion, on s'est dit, ben, pourquoi il y a eu cette évolution ? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir démocratisé leur adoption grâce à la SPA, 30 millions d'amis, et d'avoir vraiment amené ces animaux dans nos foyers qui a permis de changer notre regard, de déconstruire notre regard qu'on avait sur ces animaux ? Et donc nous, on s'est dit, ben, il faut faire de même en fait avec les animaux de ferme. Au lieu de les laisser dans des structures spécialisées comme les refuges, qui sont fantastiques, hein. Mais au lieu de juste les cantonner là-bas, on va essayer de les amener chez les particuliers. Et donc, en fait, le sanctuaire du futur, c'est un sanctuaire géant composé d'une multitude de particuliers partout en France. On en a 70 et au total, on a 1000 animaux, un peu plus, 1100 animaux. Et du coup, on a des animaux chez des particuliers. Donc, on amène les animaux chez des particuliers pour qu'ils s'en occupent comme des chats, des chiens. Et qu'on puisse du coup changer notre représentation de sauver un animal, c'est pas juste sauver un chien, c'est pas juste sauver un chat, ça peut être sauver un mouton, sauver une poule, sauver un cochon, et c'est faisable en fait. Et donc ces animaux sont des animaux de compagnie comme les chats et les chiens.
Et ils viennent d'où ces animaux ?
Alors, la plupart des foyers, quand ils intègrent le sanctuaire du futur, ils ont déjà une histoire, ils ont déjà des animaux de ferme. La plupart du temps, c'est pas des gens qui viennent comme ça, il y en a. De plus en plus, parce qu'on se développe de plus en plus. Mais donc, ils ont chacun et chacune leur histoire. Maintenant, nous, on fait aussi des sauvetages. Et ces sauvetages, ils sont issus alors de différentes raisons. Ça peut être, par exemple, un héritage. T'as ton grand-père, il est décédé. Tu es le petit-fils, t'as plus les parents aussi qui sont décédés, ou même les parents. Et ils bénéficient de 5 moutons, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils font appel à nous. Donc, ça, c'est les cas les plus sympathiques, on va dire. Tu as des cas de maltraitance où on nous signale une maltraitance. On va discuter, on va essayer de faire une médiation avec la personne qui nous le cède. Parce qu'en fait, quand ils sont dans des cas de maltraitance, souvent, les gens ne savent pas quoi en faire. Et c'est pour ça qu'ils sont énervés contre ces animaux. On a des cas aussi de maires ou d'élus de certaines petites communes où ils ont des animaux comme ça en divagation. Sur leur commune, ils comprennent pas, ils ont deux brebis en divagation, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment traiter la situation. Donc ils font appel à nous et nous, on va faire le sauvetage et le placer chez des particuliers derrière.
Et du coup, est-ce que une fois que l'animal il a intégré une famille, la famille elle bénéficie d'un suivi de l'association ?
Ah ben bien sûr, parce qu'en fait, il y a toute une connaissance, une pratique de ces animaux qui est pas diffusé dans notre société sur les chats et les chiens. Maintenant, voilà, on a une revue scientifique, on a des lectures, on a des comportementalistes canins, voilà, qui connaissent tous ces animaux. Mais sur les cochons, les vaches, en fait, même les vétérinaires sont un peu désarçonnés parce que un vétérinaire, il a pas vraiment vu de cochon après 6 mois. Un cochon, quand il est dans un élevage, c'est après 6 mois, il va à l'abattoir, après on sait pas ce qui se passe. Et donc, il y a toute une connaissance scientifique à réaliser. Donc nous, on crée des fiches techniques, on les accompagne, on a une éthologue dans l'équipe, on a un soigneur animalier, on a voilà des gens qui s'y connaissent très bien sur ces animaux, et on a surtout tout notre réseau. Et en fait, leur père, grâce à un réseau d'entraide qu'ils intègrent dès qu'un foyer intègre le sanctuaire du futur, ben, ils bénéficient de groupes où dans lesquels on va discuter spécifiquement de la maladie des cochons, de la maladie des oies, de comment enrichir un lieu de vie pour des ânes. Voilà, il y a des groupes dédiés pour chaque animal avec des sous-groupes pour vraiment aider et mettre au cœur de notre projet l'animal, son bien-être, et qu'on puisse demain vraiment être en sécurité et en sérénité pour adopter des animaux de ferme.
Et justement, moi, si demain je me dis, bah tiens, j'aimerais bien adopter un cochon, qu'est-ce que je dois être prête à lui apporter? C'est quoi les besoins d'un cochon?
Alors les besoins, alors moi je suis le président, donc je ne suis pas le spécialiste de tout, je ne connais pas tout, mais on va bien sûr regarder ton lieu de vie, voir aussi tes intentions. Ce qu'on ne veut pas, c'est reproduire ce qui s'est passé sur les chats et les chiens avec des adoptions impulsives. Donc on va regarder ton lieu de vie, comment est organisée ta maison. Bon, bien sûr, c'est pas en appartement un cochon, hein. Donc c'est vrai que c'est pas pour tout le monde et tout ça. Et derrière, on va te donner des conseils. Moi, je les ai pas tous, mais il faut savoir qu'un cochon, bah, il a besoin, par exemple, de retourner la terre. Donc il faut quand même que tu sois d'accord que ton jardin va se faire un peu, ou une partie de ton jardin va se faire éclater, quoi. Parce que le cochon, il a besoin de fouiner dans la terre, voilà, il a besoin de prendre de la boue. Donc on va expliquer tout ça. Moi, j'ai pas tous les détails, je suis pas un expert, mais notre équipe est là pour ça.
Et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un cochon, après 6 mois en élevage intensif, il part à l'abattoir. Ça peut vivre jusqu'à combien de temps un cochon? Il me semble que c'est quand même pas mal, hein.
Ah oui, un cochon, je crois de mémoire, ça peut être 12 ou 15 ans. Et oui, voilà, 12 ou 15 ans. Voilà, donc tout ça, il faut pouvoir l'assumer. Et puis un cochon de 3 mois, c'est pas la même quantité de nourriture qu'un cochon de 2-3 ans, quoi.
Ouais, donc, ouais, voilà, je me doute.
Il y a tout ça où il faut pouvoir l'assumer. Donc c'est pour ça que nous, on fait des rendez-vous spécifiques avec les personnes qui veulent adopter des animaux de ferme. On leur explique tout ça, on les fait prendre conscience de tout ce que ça va impliquer. Et puis voilà, après petit à petit, si nous on estime qu'ils sont dans nos valeurs et qu'ils sont OK, ben on peut les aider à adopter un animal de ferme et les accompagner.
Oui, il y a quand même vachement d'échanges du coup entre vous et les foyers. Enfin, il y a un accompagnement, il y a une équipe qui est derrière. Ça doit être rassurant.
Ah oui. Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement. Déjà, il va y avoir un accompagnement administratif. Parce que demain, tu veux adopter un animal de ferme, sache que tu dois devenir éleveuse.
Ah ouais,
toi, tu te dis, bah non, moi je suis pas éleveuse. Moi, je veux pas être éleveuse, au contraire. Ben si, il faut un numéro, un EDE, c'est-à-dire un numéro d'exploitant. Parce que voilà, l'animal de ferme n'est pas considéré comme un animal de compagnie. Donc ça, c'est aussi des missions de l'association, c'est de pouvoir faire évoluer la législation sur ces animaux. Et donc, nous, on va t'aider dans cette démarche à déclarer. Il faut après les boucler, parce que c'est des animaux de... Tu vois, c'est comme si ton chien, tu lui mettais un numéro de code. Et donc ça, il va falloir, voilà, il y a les prophylaxies, donc c'est toutes les réglementations sanitaires. Après, c'est pas une masse à faire, hein, c'est pas insurmontable, mais il y a de la réglementation. Donc nous, on accompagne, on fait une aide administrative et réglementaire. Après, on fait le réseau d'entraide avec l'accompagnement sur, je te disais, l'enrichissement des animaux. Donc l'enrichissement, c'est, tu peux pas juste leur donner un terrain, il faut qu'ils aient des activités, des jouets, des choses comme ça. Donc ça, on va donner des tips, des conseils sur ça. Et puis après aussi, on peut arriver un peu plus loin. C'est-à-dire plus loin, tu peux arriver que demain, un cochon, si tu as une maladie, il faut quand même payer des frais vétérinaires un peu élevés. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va pouvoir créer une cagnotte dédiée à ton cochon. Et comme nous, on a des réseaux sociaux, on fait cette année, on va faire plus de 30 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, on a de l'impact. Et donc, facilement, on peut accompagner ton cochon qui serait en difficulté par une cagnotte. Et puis aussi, comme notre but, c'est de sensibiliser sur ces animaux et de montrer que c'est pas juste de la marchandise et qu'au contraire, ce n'est pas, c'est des animaux de compagnie. Eh ben, on fait des vidéos, on raconte les histoires, le sauvetage, et on fait des petites vidéos sur les réseaux sociaux.
Ok, bah ça c'est trop bien. On sait qu'en Bretagne, il y avait plus de 4000 exploitations et 6,8 millions de cochons en 2022. C'est la région qui détient plus de la moitié du cheptel national. Aujourd'hui, oui, on voit beaucoup les cochons comme de la viande, alors que ce sont des animaux sensibles qui ressentent des émotions comme l'anxiété. J'ai même appris que les cochons, ils pouvaient connaître leur prénom. Ça, c'est vous qui m'avez appris ça.
Oui.
Au final, c'est des animaux Oui.
C'est vraiment le cochon et le chien, c'est très proche. Et même le cochon, j'ai pas envie de hiérarchiser, mais sur certains aspects est plus intelligent, on va dire, que le chien.
Mais
donc vraiment, t'as un cochon à la maison, tu peux imaginer qu'il fera tout comme ton chien. Tu l'appelles, lève la patte, machin, tourne, il peut classer des couleurs, il peut tout ça, il peut jouer avec toi, pas de problème.
Tu m'as devancé, c'était ma prochaine question. Mais ouais, ça, je m'en rendais pas du tout compte parce que, enfin, même en consommant pas de viande, moi, je m'étais jamais intéressée plus que ça à la sensibilité du cochon, même des animaux de ferme en général. Du coup, en fait, les cochons, les chiens et les chats, c'est vraiment pas si éloigné que ça, en fait.
Non, pas du tout. Même au-delà de la sensibilité, on appelle ça, alors c'est un mot que je vais t'apprendre, c'est sans doute, c'est ils ont de la sentience. Alors de la sentience, c'est qu'en gros, ils ressentent la douleur, mais aussi ils ont conscience d'exister. Tu vois, c'est pas juste des individus comme ça qui peuvent avoir mal, mais c'est qu'ils savent qu'ils existent, qu'ils sont une personne en fait. Et ça a été démontré scientifiquement. Donc les chats, les chiens, les cochons, les poules, hein, beaucoup d'animaux, après pas tous les insectes et pas tous les animaux sont sentients. Mais voilà, ils ont plus que de la sensibilité, ils ont même une conscience d'être un être.
Et comment on démontre ça qu'un animal, il a de la sentience du coup?
Alors ça, c'est vraiment, pareil, je ne suis pas assez expert, mais c'est des scientifiques. En gros, il y a déjà des prédispositions physiologiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir un système nerveux central, des connexions neurologiques. Après, il y a des tests, tu vois, comme le test du miroir, où l'animal comprend qu'en face, c'est lui-même qui est devant le miroir. Alors, tu vas me dire comment tu fais le test de la poule sur un miroir. Je n'ai pas toutes les notions exactes, mais en gros, c'est des protocoles comme ça. Et il y a différents degrés. Il y a des degrés où, par exemple, l'animal peut ressentir de la dépression, de la mélancolie à la suite de la perte d'un compagnon ou d'une compagnon. Et il n'y a pas tous les animaux qui l'ont. Tu vois, donc il y a des animaux plus ou moins sentients, avec plus ou moins de degrés de sensibilité et de conscience d'exister. Voilà, et nous, on est au maximum de la sentience, par exemple. Bon, d'après nos critères, hein, c'est nous-mêmes qui les avons créés. Donc...
Oui, forcément. Ok, et sinon, on peut parler aussi peut-être juste de la consommation de viande en général, parce que la oui. viande qu'on consomme, qu'on achète au supermarché, tout emballée, généralement, elle vient quand même de l'élevage intensif, avec des animaux qui sont élevés hors sol. Est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu les conditions dans lesquelles les cochons sont élevés en élevage intensif ?
Ben, comme tu l'as si bien rappelé, en Bretagne, vous êtes vraiment le centre stratégique, on va dire, de l'élevage et malheureusement de l'élevage intensif. Alors ces animaux, ben, pour ne pas gêner les éleveurs et ne pas gêner la production, ben, on va leur tailler les dents pour limiter les morsures. On va leur couper la queue parce que la queue, c'est un bout de chair qui peut créer des problèmes parce que s'ils se mordillent entre eux, on va les castrer mais à vif, des choses comme ça sans anesthésie parce qu'il n'y a pas le temps, il faut faire de l'argent et tout ça. Donc voilà, et du coup en France on est à plus de 90% des élevages de cochons qui sont en hors sol. Donc, sur caillebotis, ils ne verront jamais la lumière du jour, à part le moment où ils passeront de l'élevage au camion pour aller à l'abattoir. Et c'est tout. Voilà. Et donc, ça, c'est la dure vie des cochons en France. Et on espère que ça va évoluer.
Et c'est quoi les alternatives à l'élevage intensif ?
Bah, les alternatives à l'élevage intensif, c'est de plus manger d'animaux. Ça, c'est le numéro un de l'alternative, et c'est celle que nous, on essaye de développer. Voilà, après, il y a sur d'autres animaux des améliorations pour essayer d'éviter ou de faire moins de souffrance aux animaux, mais après, là, c'est tout un sujet, est-ce que c'est nécessaire d'exploiter les animaux pour vivre ? Voilà, bon, nous, sur le Sanctuaire du Futur, on reste sur aider et aimer les animaux et démocratiser leur adoption. On n'essaye pas d'aller beaucoup plus loin parce que ça peut créer de la réactance. Donc c'est plutôt une campagne positive pour montrer que ces animaux sont des êtres sensibles, comme tu l'as rappelé, et que ce sont des êtres qu'on peut adopter comme un chat et un chien. Et après, on laisse à tout à chacun d'évoluer en sachant ça et en voyant qu'il y a des gens qui vivent avec des cochons comme avec des chiens et on espère que des gens pourront se poser la question. Est-ce qu'ils auraient fait ça à un chien? Et qu'est-ce qu'on se dira dans 50 ans? Est-ce que dans 50 ans, on aura la même réflexion comme il y a 100 ans, 1925, pile, poil, 100 ans, il y avait des boucheries de chiens en France, à Paris, et la dernière boucherie de chiens, ça s'est terminé, dernière boucherie canine, c'était il y a 100 ans, et puis tu peux poser la même question sur les chevaux. Les boucheries chevalines, c'est en train de disparaître. Moi, à mon époque, j'ai plus de 40 ans, c'était très commun d'avoir des boucheries de chevaux, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on hiérarchise les animaux entre eux, je sais plus, c'est le spécisme, je crois que ça s'appelle comme ça.
Exactement.
Où on hiérarchise, on se dit, bah tiens, lui, il est plus mignon, du coup, je vais pas le manger, mais lui, il est un peu plus moche, du coup, ça me dérange pas. Ouais.
Voilà, il y a des critères, des fois, d'esthétisme, il y a souvent des critères culturels, parce que bah, dans d'autres pays, la vache est sacrée, chez nous, elle est tuée. Il y a d'autres pays où on mange même du chien, et chez nous, il est l'ami de l'homme et de la femme. Maintenant, on a réussi à faire évoluer ça aussi. Voilà, donc c'est des critères souvent non rationnels, très culturels, et on sait que nos cultures ont évolué, bien heureusement. Il y a eu d'autres discriminations dans le passé et elles ont évolué, et on pense que le 21e siècle sera le siècle des animaux et que sera le siècle où on va évoluer notre cercle de compassion, non plus juste à l'humanité, qui a été déjà une très grande avancée grâce au siècle des Lumières, à l'humanisme, mais que maintenant on va passer aussi à un cercle de compassion en intégrant les autres animaux, parce que nous-mêmes nous sommes des animaux, et que on pourra vivre toutes et tous sans logique de domination et de prédation, et que ça pourra même aider notre humanité à être moins dans cette logique de domination et de prédation.
Et ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que vous avez créé une éco-charte à laquelle les festivals peuvent agréer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Ah, ok. Alors, dans la campagne Sanctuaire du futur, donc comme je t'ai dit, là, c'est changer notre regard sur les animaux de ferme. On a une autre campagne qui est l'affaire du steak, où on veut changer notre regard sur qu'est-ce que l'écologie. Et on veut, du coup, ramener la question de l'élevage, comme on en a parlé en début d'interview, la question de l'élevage au sein de notre écologie. Et comme au sein du mouvement écologiste, on est très anti-culpabilisation individuelle. Tu vois, on nous a déjà fait beaucoup, faut couper le robinet, faut arrêter le chauffage, machin, nanana. On sait que c'est pas quelque chose qui marche. Donc on veut pas être dans une démarche de culpabilisation individuelle des individus en disant il faut que tu arrêtes de manger de la viande, c'est pas écolo, machin, tu peux pas être écolo et manger des animaux. Donc pour être moins dans cette logique, on s'est dit il faut qu'on trouve une représentation de qu'est-ce qu'être écologique, qu'est-ce que l'écologie, et on s'est dit les festivals, c'est super, parce que les festivals, ça représente qu'est-ce qu'être écologiste. Ça montre à des personnes qui veulent rentrer dans ce mouvement les premiers signes, les premières actions à faire. Et donc, de nos jours, c'est impossible de voir un festival écolo avec des gobelets en plastique et aucune logique de tri ou de gestion des déchets. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est faire évoluer les festivals dits écolo vers une consommation diminuée, voire arrêtée de viande et de poisson.
Ça, c'est trop cool comme initiative. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche. Où est-ce qu'on pourrait retrouver les actus de l'association Le Futur ?
Alors, il y a sur les réseaux sociaux, tu tapes Futur Asso, Futur avec plus loin Asso, tu la trouves sur Instagram, TikTok, tout ça, ou Asso Futur, tu trouveras très rapidement. Si tu veux t'intéresser plus spécifiquement à Sanctuaire du Futur, c'est pareil, tu tapes Sanctuaire du Futur. L'affaire du steak, c'est pareil, il y a même un site, l'affaire du steak. Principalement nous sur les réseaux sociaux, et sinon il y a notre site web futur-asso.com. Et puis si tu veux nous aider, tu peux faire un petit don, c'est toujours gentil. Voilà.
Super, merci beaucoup Amadeus d'être venu avec nous ce soir pour nous parler de l'association.
Ça fait très plaisir, c'était très sympa, j'espère que les auditeurs ont apprécié.
Moi j'espère aussi, et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, et changeons le monde avec de la positivité. Bien à toi.
Salut.
Ciao.
Alors pour la petite info, on m'a parlé d'un bon plan pour vos mardis soirs de novembre. Chaque mardi du mois à 20h au cinéma Les Studios à Brest, vous pouvez découvrir un film provenant d'un des 9 pays de l'Alliance CU à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plongée dans la thématique de l'égalité femmes-hommes et de célébrer la diversité culturelle européenne. Les films sont proposés en version originale pour vous immerger dans les langues européennes. L'entrée est gratuite pour les étudiantes de l'UBO. Donc voilà, petite info comme ça, j'espère que ça pourra servir à certains et certaines. Et merci beaucoup à vous les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté C'est vous qui le dites. À demain pour une nouvelle quotidienne. Salut.